Il est 16h à Paris, 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Paul Loncin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. Deux employés des Nations Unies tués par une explosion à Gaza aujourd'hui, deux jours après la reprise des bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne. Les troupes de l'État hébreu nient avoir visé le bâtiment onusien dans lequel ont péri les deux employés. Le bilan total des frappes depuis 48 heures monte à 970 morts. La frilosité de Volodymyr Zelensky après l'appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump hier. Les présidents russes et américains qui ont convenu d'un cessez-le-feu de 30 jours uniquement sur les infrastructures énergétiques. Le Kremlin refuse un arrêt complet des combats sans que les alliés de Kiev mettent fin à leur soutien militaire. Le dirigeant ukrainien le refuse. Il s'entretient actuellement à son tour avec Donald Trump. Et puis en Turquie, le parti CHP dénonce un coup d'état contre l'opposition après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu ce matin. Le maire d'Istanbul, détracteur numéro 1 du président turc Recep Tayyip Erdogan, est accusé de corruption et de soutien à une organisation terroriste. Le retour de la guerre à Gaza hantise des civils. 970 personnes ont été tuées en 48 heures par des frappes israéliennes les plus massives depuis la signature de la trêve fin janvier. Angoisse aussi pour les travailleurs humanitaires. Deux employés de l'ONU ont été tués par une explosion aujourd'hui qui a touché un bâtiment des Nations Unies à Deir el-Balah dans le centre de Gaza. Israël nie pourtant avoir frappé ce complexe. Cette reprise des attaques par l'État hébreu n'a pourtant pas provoqué de réaction armée de la part du Hamas. Le mouvement palestinien dit même ne pas fermer la porte des négociations. Sami Boukhalifa.
Israël doit immédiatement cesser ses hostilités, indique le Hamas, qui semble disposé au dialogue. Selon Hamed Roussaï, docteur en sciences politiques à l'université Al-Quds de Ramallah, le mouvement ne souhaite pas se laisser instrumentaliser par le premier ministre israélien, dont les motivations guerrières découlent de considérations politiques intérieures. Autrement dit, il reprend la guerre pour donner des gages à ses ministres d'extrême droite.
Je pense que le Hamas a compris que Benjamin Netanyahu veut entraîner le mouvement dans une nouvelle confrontation de longue durée. Le Hamas ne le souhaite pas. Le Hamas préfère laisser leur chance aux médiateurs pour calmer les choses avec Israël.
Le dialogue plutôt que le combat. Cette stratégie du Hamas serait également due à la destruction en grande partie de ses capacités militaires, indique Hamed Roussaï, spécialiste du mouvement palestinien.
On ignore si le système de roquettes du Hamas est toujours fonctionnel. Les derniers tirs de roquettes du Hamas contre des villes israéliennes remontent à janvier 2024, ce qui nous indique qu'ils ont des difficultés à faire fonctionner leur système de roquettes.
Face à cela, Israël pourrait en profiter pour intensifier la pression militaire contre le Hamas dans la bande de Gaza et ses 2 millions d'habitants. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Les condamnations à l'international continue de pleuvoir pendant ce temps. À la mi-journée, Abdallah II a évoqué une étape extrêmement dangereuse. Le roi de Jordanie reçu à Paris par Emmanuel Macron, le président français, qui dénonce lui un retour en arrière dramatique. Cette reprise de la guerre à Gaza, elle concorde aussi avec le retour d'Itamar Ben-Gvir dans le gouvernement israélien. Cette figure de l'extrême droite avait démissionné le 19 janvier dernier au moment de la signature de la trêve, dénonçant alors un accord scandaleux. Il reprend donc son poste de ministre de la Sécurité nationale. La brouille de fin février à la Maison-Blanche, mise au placard, Volodymyr Zelensky et Donald Trump rétablissent le contact. D'après son porte-parole, le président ukrainien est en train de parler par téléphone avec son homologue américain. Un entretien qui fait suite à celui entre le républicain et Vladimir Poutine. Hier, durant cet appel, le président russe avait seulement accepté une trêve sur les structures énergétiques. Pendant 30 jours, il a posé ses conditions à un cessez-le-feu complet, la fin de l'aide militaire à l'Ukraine. Notamment, ce matin, Volodymyr Zelensky, qui était en déplacement en Finlande, a répété qu'il ne fallait faire aucune concession à la Russie sur ce point.
Ils ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre, et ça se voit. Nous avons averti la partie américaine à ce sujet. Ils ne sont pas prêts à mettre fin à la guerre. Ils ne sont même pas prêts pour la première étape, qui est un cessez-le-feu. Quant aux modalités concernant la non-attaque du secteur de l'énergie, on soutient cela. Mais ça serait très intéressant d'en connaître les détails et de savoir ce qui est réellement proposé, ce sur quoi les parties se sont mises d'accord. Après avoir obtenu les détails du président américain, de la partie américaine, nous préparerons certainement notre réponse et notre équipe sera prête pour les échanges techniques.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, son pays et la Russie qui ont échangé aujourd'hui de nouveaux prisonniers de guerre. 175 Russes contre 197 Ukrainiens. Plus de 20 d'entre eux sont gravement blessés. Le président américain hyperactif, donc sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan budgétaire. L'un des grands combats de Donald Trump, c'est en effet la chasse aux dépenses qu'il estime excessives parmi ses cibles favorites depuis son retour à la Maison-Blanche, l'USAID. Cette agence américaine de développement international prise en tenaille entre le président américain et son allié Elon Musk, chargé de réaliser ses coupes. Sauf qu'un obstacle vient barrer la route des deux hommes. Un juge fédéral a estimé hier que ce démantèlement était contraire à la Constitution. Décision que Donald Trump veut maintenant contester, Abla Jounaïdi.
Le démantèlement d'une des principales agences humanitaires dans le monde, USAID, viole probablement la Constitution américaine. Tel est l'avis du juge fédéral saisi par des employés démis de leurs fonctions. Le magistrat ordonne que près de 25 000 personnes récemment embauchées soient réintégrées et l'accès au courriel restauré pour tous les employés de l'agence. Il interdit aussi d'engager tout autre travail lié à la fermeture du USAID. Pour la première fois, Elon Musk, à la tête du DOGE, la commission responsable de la purge de l'administration américaine, est officiellement mise en cause. Le juge estime que le milliardaire est plus qu'un simple conseiller de Donald Trump et qu'il agit de facto comme un ministre, mais sans avoir passé le processus de nomination prévu par la Constitution, à savoir la confirmation par le Congrès. Difficile de savoir si les décisions du juge seront immédiatement suivies des faits. Donald Trump, sur Fox News, a en tout cas annoncé qu'il fera appel du jugement.
Blajounaïdi, l'inquiétude de plusieurs pays européens après l'arrestation du principal opposant à Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Berlin notamment évoque un grave revers pour la démocratie. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été interpellé ce matin à son domicile, accusé notamment de corruption et de soutien au terrorisme pour avoir aidé le parti des travailleurs du Kurdistan. Son parti, le CHP, dénonce un coup d'état contre l'opposition. Les activités logistiques et notamment la gestion de ports africains par le groupe Bolloré, placé entre les mains de la justice française. Le collectif Restitution pour l'Afrique, composé de 11 ONG présentes dans 6 pays africains, a porté plainte hier auprès du parquet national financier à Paris contre le groupe et son fondateur Vincent Bolloré. Les plaignants dénoncent des faits de recel et de blanchiment d'argent. L'équipe de France de foot, une pépinière de talent qui semble infinie. Les Bleus vont affronter la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations. Le match aller de cette double confrontation, ça sera demain soir. Pour se préparer, les hommes de Didier Deschamps sont à Clairefontaine depuis lundi et ils comptent dans leur rang un nouveau joyau. Il s'appelle Désiré Doué. À 19 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain impressionne et s'adapte à la sélection tout naturellement. Cédric De Oliveira.
Grand sourire, peut-être un peu timide, Désiré Doué n'a pas caché qu'il vivait un rêve éveillé depuis lundi. Le jeune attaquant fait désormais partie de l'équipe de France.
C'est beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. J'ai validé une très grande étape dans ma jeune carrière. L'équipe de France, c'est plus qu'un simple maillot. Quand on vient là, c'est jouer pour la nation, c'est jouer pour des millions de personnes.
Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir, Doué, 19 ans, a su profiter de son départ de Rennes vers le PSG l'été dernier pour franchir un cap. Et ses partenaires ne sont pas surpris par sa convocation. Le défenseur Jules Koundé est impressionné par sa maturité.
C'est déjà un très très fort joueur. Il a une évolution qui est constante, mais en même temps, ces derniers mois, j'ai l'impression que ça s'est accéléré. Donc on est très content de pouvoir l'intégrer au groupe France.
Frère du défenseur de Strasbourg, Guéla Doué, qui a choisi de jouer pour la Côte d'Ivoire, Désiré n'a lui jamais douté de son avenir en bleu, inspiré par la réussite de son capitaine.
Bien sûr que des joueurs m'ont fait rêver depuis tout petit. Il y a Kylian Mbappé, Moi, je suis né en 2005, donc j'ai pas connu la Coupe du Monde 98. Pouvoir côtoyer un joueur d'un tel standing, c'est quelque chose de beau.
Doué espère maintenant pouvoir jouer avec l'attaquant du Real Madrid. Le sélectionneur Didier Deschamps pourrait bien lui faire confiance lors de ses deux matchs contre la Croatie.
Cédric De Oliveira, Croatie-France, coup d'envoi 19h45, temps universel demain. Le match retour, ce sera dimanche au Stade de France. RFI 16h10 à Paris, 15h10, temps universel. L'heure de se rendre sur le Pont des Arts avec Nathalie Amard.
Merci Paul Longsens-Pinelli et à tout à l'heure.